Au sommaire de cette édition, risque d'incendie et de coupure de courant suite à une vague de chaleur sur une vaste étendue du territoire australien. Et en France, la police déjoue un attentat terroriste, tandis que le ministre de l'Intérieur annonce le port de caméras portables pour éradiquer les violences lors des contrôles d'identité. Et Donald Trump accueille chaleureusement le premier ministre japonais à la Maison Blanche. Hier, 4 personnes ont été arrêtées à Montpellier, dans le sud de la France. Il s'agit de 3 hommes et d'une fille de 16 ans qui projetaient de commettre un attentat à Paris visant un site touristique. Le ministre de l'Intérieur a signalé dans un communiqué qu'un projet d'attentat imminent était, sur le sol français. Explication Olivier Chaman pour RFI.
Les enquêteurs les ont identifiés sur les réseaux sociaux, notamment sur la messagerie cryptée Telegram, très prisée par les djihadistes. En fait, l'enquête s'est accélérée jeudi avec l'achat d'acétone et d'eau oxygénée, des composants du TATP, un explosif artisanal puissant mais très instable. 3 interpellés sont directement suspectés d'avoir voulu préparer une action violente en France. Le rôle du suspect de 26 ans reste encore à déterminer. L'adolescente de 16 ans, elle, avait exprimé la volonté de partir en zone syro-irakienne. Selon les premiers éléments des investigations, l'homme de 20 ans projetait de se marier religieusement avec la jeune fille avant de se faire exploser. Dans l'appartement où ont été arrêtées les 4 personnes, les policiers ont en effet découvert 71 grammes de TATP ainsi que des notes manuscrites pour en fabriquer et les composants ou le matériel nécessaire pour le confectionner. Les enquêteurs pensent donc qu'un passage à l'acte rapide était prévu, mais ils ne savent pas où et comment.
Et près d'une semaine après l'interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois, la tension ne faiblit pas. En soutien à ce garçon de 22 ans qui accuse un policier de l'avoir violé avec une matraque le 2 février, divers rassemblements ont eu lieu en France et des associations antiracistes seront reçues lundi prochain par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et hier, dans un entretien à la radio, Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, cherchait à apaiser les tensions. Il a en effet annoncé un programme de port de caméras portables par les forces de l'ordre lors des opérations de vérification de pièces d'identité. Ce jeune d'Aulnay-sous-Bois, interrogé par nos confrères de RFI, estime que ces caméras sont utiles.
Les jeunes peuvent se faire taper et après on n'a pas de preuve si c'est vrai ou c'est faux.
Il faut que les policiers portent une caméra en permanence ?
Non, pas en permanence. Quand ils contrôlent des gens, on ne sait jamais s'ils mentent. C'est mieux qu'ils portent une caméra.
Par contre, selon Jacques Demayen, professeur des sciences politiques à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, ces caméras ne règlent pas tout et cette mesure du ministre de l'Intérieur n'est que symbolique.
Elle pose toute une série de questions sur l'intimité individuelle, elle pose des questions sur leur usage aussi, parce que la caméra ne permet pas de tout voir. Après, il ne faut pas surestimer l'importance de cette annonce. Il a été question de 2500 caméras, on a 130 000 policiers et 90 000 gendarmes. Vous voyez que dans cette mesure, il y a une dimension d'annonce symbolique qui est extrêmement forte et en décalage très important par rapport aux forces de police qui exercent sur la voie publique.
Et ce samedi, de larges pans du territoire australien seront, ce samedi et dimanche d'ailleurs, de larges pans du territoire australien seront frappés par une vague de chaleur extrême. Il en résultera des graves menaces d'incendie et des risques de coupure d'électricité, surtout en Nouvelle-Galles du Sud. Dans de nombreuses localités de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, du Victoria et de l'Australie du Sud, le mercure va dépasser les 40 degrés ce week-end. En Nouvelle-Galles du Sud, où on s'attend à des conditions catastrophiques dans les régions du centre et de l'ouest, ainsi que la région de Hunter Valley. Bien, les autorités ont décrété une interdiction totale d'allumer des feux dans ces régions. Entre-temps, le porte-parole de l'opposition sur les questions environnementales a déclaré à nos confrères de la ABC que des coupures de courant comme celles qui ont frappé l'Australie du Sud mercredi dernier devraient entraîner des discussions sur la politique énergétique du pays.
And it is beyond time that the federal parliament had a mature debate about electricity policy. I hope the one thing that's come out of this terrible week in Australia, in South Australia first and now on the eastern seaboard, is a realisation at the national level that there is an emerging electricity crisis in this country. And what we need is a mature discussion between both major parties in the national parliament, the state governments, the electricity industry and the business groups.
Et selon l'organe représentatif des compagnies d'assurance maladie australiennes, bien les Australiens devraient bien réfléchir sur les conséquences financières de ne pas avoir une assurance maladie. En effet, une autorisation gouvernementale d'augmenter de 4,8% les primes d'assurance entrera en vigueur dès le 1er avril prochain. Et selon le gouvernement, les primes vont augmenter de 2 $ par semaine pour les personnes isolées et 4 $ par semaine pour les familles. Les familles se verront donc contraintes de payer plus de 200 $ supplémentaires pour leurs primes annuelles. Cependant, selon Rachel David, la présidente de Private Healthcare Australia, il est très avantageux d'avoir une assurance maladie.
People need to think that if they had a hip or a knee condition that required a joint replacement, they'd be up for $20,000 or more as a direct cost if they didn't have private health insurance, or a wait of maybe up to a year in pain waiting for a public hospital bed to become available. For younger people, a mental health admission that they didn't expect could cost $20,000 a year or over. And for some of those conditions, like addictions and eating disorders, there might not be a public hospital bed available.
Et le premier ministre japonais Shinzo Abe est en visite aux États-Unis où il a été reçu à la Maison Blanche. C'est le deuxième dirigeant à être reçu par Donald Trump après la première ministre britannique Theresa May. Pour Donald Trump, l'alliance avec le Japon est cruciale pour la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique.
We will work together to promote our shared interests, of which we have many. In the region, including freedom from navigation and of navigation, and defending against the North Korean missile and nuclear threat, both of which I consider a very, very high priority.
Et de son côté, le chef du gouvernement japonais a souligné que les deux dirigeants tiennent au statu quo dans la mer de Chine et sont opposés à tout changement imposé par la force dans la région.
Japan and United States have confirmed that we will strongly protest any use of force as well as the coercion to change the status quo. I and the President will address.
Et hier, les célébrations du 38e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran a été l'occasion de nombreuses manifestations à travers le pays pour dénoncer les menaces du nouveau président américain Donald Trump. À Téhéran, ils étaient des centaines de milliers à converger de 10 points différents pour aller sur la place Azadi, qui signifie liberté. Et les manifestants scandaient « mort à l'Amérique » mais aussi « mort à Israël » et portaient des pancartes hostiles au président Trump. Du haut de la tribune, le président Hassan Rouhani a mis en garde le nouveau président américain et lui a signifié qu'il faut traiter l'Iran avec respect.
Some inexperienced figures in the region and America are threatening Iran. They should know that the language of threats has never worked with Iran. They should learn to respect Iran and Iranians. We will strongly confront any warmongering policies.
Le président Rouhani a également ajouté que le peuple iranien est uni pour défendre ses forces armées. Le président Trump avait imposé de nouvelles sanctions après un test de missile fin janvier et a affirmé qu'il ne sera pas aussi gentil que son prédécesseur Barack Obama face à l'Iran. Et plus de 400 baleines pilotes se sont échouées dans la nuit de jeudi à vendredi sur une plage de Nouvelle-Zélande. Selon les autorités, près de 3 quarts des baleines seraient mortes sur la plage de Farewell Spit située dans la région de Golden Bay. Des centaines de bénévoles ont toutefois réussi à renflouer un grand nombre de baleines et ont formé une chaîne humanitaire pour tenter de les empêcher de s'ensabler à nouveau. Comme le souligne ce bénévole, des touristes sont joints à la population locale pour tenter de sauver les baleines.
Oh, it's amazing. And there are people from all over the world. Anyone who's within Kui has heard about this. They've just come over. We brought 3 hitchhikers over who just said they wanted to come here and do whatever they could.
Et il s'agit du 3e plus important échouage de baleines jamais recensé en Nouvelle-Zélande, où de tels événements sont fréquents. Et selon les services de protection de l'environnement, il n'existe pas d'explication scientifique pour ces échouages. Et d'après nos confrères de la chaîne Info et BFM TV, le djihadiste français Rachid Kassim, considéré comme l'un des terroristes les plus recherchés de la planète, a été abattu mercredi 8 février lors d'une frappe menée par la coalition américaine en Irak. L'homme, âgé de 29 ans, aurait été tué par un drone dans la région de Mossoul. Cependant, il faut souligner que la DGSE, les services de renseignement français, n'ont pas encore confirmé l'information de leurs homologues américains. Et le malaise persiste dans les deux régions anglophones du Cameroun, à l'ouest du pays, où la minorité linguistique se dit marginalisée. Les contestataires ont appelé vendredi, donc c'était hier, à une journée ville morte. Et l'appel a été bien suivi, malgré la pression des autorités qui ont coupé Internet et interdit le mouvement en arrêtant plusieurs de ses leaders. Et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Madame Aïchatou Mindaoudou, a confirmé que hier au Conseil de sécurité que l'ONU, dont les casques bleus de l'ONU, allaient se retirer de Côte d'Ivoire le 15 février comme prévu. Elle a aussi demandé à la communauté internationale de rester pleinement mobilisée pour la Côte d'Ivoire dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Le désengagement démarrera donc ce 15 février, malgré une série d'incidents impliquant les forces armées ivoiriennes, faisant craindre un retour à l'instabilité. Le retrait des casques bleus de la Côte d'Ivoire devrait se terminer le 30 juin prochain. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 28 degrés, Adélaïde 34, Melbourne 28 degrés, Hobart 26 degrés, Canberra 41 degrés, Wollongong 34 degrés, Sydney 36 degrés, Newcastle 33 degrés, Brisbane 36, Cairns 32 et Darwin 30 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 72 centimes d'euros. Et à présent, un rappel des titres. Risque d'incendie et de coupure de courant suite à une vague de chaleur sur une vaste étendue du territoire australien. Et en France, la police déjoue un attentat terroriste, tandis que le ministre de l'Intérieur annonce le port de caméras portables pour éradiquer les violences lors des contrôles d'identité. Et Donald Trump accueille chaleureusement le premier ministre japonais à la Maison Blanche. C'est tout pour l'actualité de ce samedi. On fait une courte pause et on passe au magazine des sports tout de suite après la pause. À tout de suite.